Radio Okapi.
D'abord, les titres de ce journal. En Ituri, au moins 6 personnes ont été tuées, dont 4 militaires de FARDC et plusieurs autres blessés dans une attaque attribuée à la milice CRP de Thomas Lubanga. Les organisations locales déplorent l'activisme persistant de la CRP qui empêche des milliers d'habitants des camps de pêche Nyamamba, Café, Bodji de regagner leur village. 10 743 déplacés venus principalement de la chefferie de Wales et Vonkutu et celle de Banyali Tchabi qui ont trouvé refuge à Komanda Centre et dans les localités environnantes veulent retourner dans leur village car ici, affirme-t-il, leur vie est un véritable calvaire. L'invité de ce journal, c'est Nangi Lamido Enga. Il est conseiller stratégique à l'Association des personnes vivantes avec handicap international. Il nous parle de l'inclusion comme levier du développement national. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. En Ituri, au moins 6 personnes ont été tuées, dont 4 militaires de FARDC et plusieurs autres blessés dans une attaque attribuée à la milice Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga. Les faits se sont produits dans la nuit de jeudi à vendredi à Nyamamba, dans la plaine du lac Albert, territoire de Djougou à environ 70 km au sud de Bounia. Les combats ont duré jusqu'à vendredi matin. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Les miliciens de la CRP sont toujours actifs dans la plaine du lac Albert. Jeudi soir, ils ont pris d'assaut une position avancée des FARDC à Nyamamba. L'armée a riposté et les affrontements se sont prolongés jusqu'à vendredi matin. À Tchomi, à 7 km de là, les habitants affirment avoir attendu des détonations au petit matin. Bilan provisoire, au moins 4 militaires tués et plusieurs blessés transférés à Bounia pour soins. Des sources locales avancent un chiffre plus lourd. À Mita, village voisin, des femmes ont également été tuées. Meurtre attribué à un militaire FARDC qui aurait pris les victimes pour des ennemis. Les organisations locales déplorent l'activisme persistant de la CRP qui empêche des milliers d'habitants des camps de pêche Nyamamba, Café, Mbogi de regagner leur village. Elle regrette aussi l'absence d'implication des militaires ougandais basés à Sabé censés appuyer les FARDC dans les démantèlements de ces groupes armés. Nous n'avons pas encore obtenu la réaction de l'armée face à cette situation sécuritaire toujours volatile. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nouvelle tragédie dans le Sud Kivu. Jeudi dernier, les drones pilotés par les rebelles du M23 ont frappé le centre de Kaniola et les carrés miniers d'Ntula dans le territoire de Walungu. Le bilan est lourd, une dizaine de civils tués et de nombreux blessés. Ces violences ont provoqué un important déplacement des populations et suscitent une vive indignation chez les acteurs locaux qui condamnent fermement cette escalade. Une situation qui ravive les inquiétudes dans une région déjà marquée par l'instabilité. Les détails avec Ronéline Tibonera.
Selon nos sources, cette situation serait la conséquence d'une vaste offensive menée depuis le 7 août par la rébellion du M23 contre les positions tenues par le Wazalendo. Les axes ciblés par ces attaques sont Tchagala, Murali, Mwirama, Zibira, Issi. Plusieurs habitants ont dû fuir leur domicile pour se mettre à l'abri vers Budodo, Chisaza et Mugaba.
Ils ont manipulé des drones, ils ont bombardé la carrière minière du groupement Kaniola et les gens ont perdu la vie. Tel que vous avez vu ça, vraiment, la population a beaucoup regretté. L'M23 est mouvement reculé selon la procédure des mouvements. Et rebelles manipulent des drones de guerre dans quel pays?
L'élu provincial du territoire de Walungu, Béatrice Nanvano, déplore cette nouvelle violation de l'accord de principe signé entre le gouvernement et le M23 AFC. Elle plaide pour des sanctions sévères à l'encontre des auteurs de ces atrocités.
Notre gouvernement doit rester vigilant car les choses ne marchent pas bien ici chez nous. La communauté internationale doit prendre cette question à main, interpeller le M23 au respect de l'engagement et faire respecter les droits de l'homme au site Kivu en faisant taire les armes dans cette partie.
Notons que de nouveaux combats sont signalés ce samedi entre les rebelles du M23 AFC et les Wazalendo à Moulamba dans le même territoire.
En plus bref, sachez que le gouvernement provincial du Kasaï Central est en deuil. Le ministre provincial de l'Intérieur est décédé ce samedi à Kinshasa à la suite d'une maladie. Député provincial élu de la ville de Kananga, Alain Lukusampoy, était nommé ministre dans l'équipe gouvernementale du Kasaï Central depuis 2024. Au Nord Kivu, les habitants de plusieurs
plusieurs quartiers de la cité de Sake, groupement Kamoronza, en territoire des Massis, ils n'ont pu fermer l'œil la nuit de vendredi à ce samedi. Des sources locales dénombrent 21 maisons qui ont été cambriolées par des individus munis d'armes à feu. Cela a eu lieu respectivement sur les avenues Luhunga et Baumalave au quartier Ndolero. Les détails avec vous, Jean Ganduka Bongo.
L'on parle de plusieurs biens des valeurs extorqués et emportés par des bandits, notamment des effets vestimentaires, des téléphones portables et même des chèvres. Les habitants du quartier Bikali ont aussi été victimes de la brutalité de ces individus qui les ont dépossédés de plusieurs de leurs biens. La cité de Sake, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma, accueille depuis février dernier plusieurs familles de personnes déplacées internes que la rébellion du M23 a contraint de quitter Goma en démantelant les sites et camps qui étaient érigés dans et autour de la ville. C'est ainsi que des milliers des personnes sont réparties vers les localités rurales, dont Sake. Plus de 6 mois après, leur intégration n'est pas totalement effective. Outre qu'elles continuent à avoir besoin d'assistance humanitaire, ces personnes affrontent presque au quotidien les conséquences de l'insécurité. Les efforts des jeunes volontaires qui organisent des patrouilles nocturnes pour tenter de dissuader les brigands ne suffisent pas. S'attaquer aux porteurs d'armes à main nue n'est pas chose facile. C'est dans cet environnement que le chef de la localité de Kimoka a été abattu dans sa résidence de la cité de Sake. Une semaine après le meurtre, les auteurs courent encore et les résultats de l'enquête annoncée par la rébellion sont toujours attendus, constatent quelques habitants de Sake.
Restons au Nord Kivu où une fillette âgée d'environ 3 ans est morte au cours d'un incendie qui s'est déclaré ce samedi matin à Goma sur l'avenue Abattoir au quartier Kieshero dans la commune de Goma. Les services de protection civile de la ville, appuyés par l'unité anti-incendie de la MONUSCO, sont rapidement intervenus pour éteindre le feu et éviter plus de dégâts. Pour l'instant, l'origine de l'incendie, qui a complètement détruit 3 maisons, n'a pas été identifiée. Cet incendie intervient moins de 24 heures après un autre qui a fait d'importants dégâts matériels vendredi au quartier Mikeno, même commune de Goma. Une intervention professionnelle de l'unité anti-incendie de la MONUSCO a évité la propagation des flammes aux immeubles du voisinage du stade Les Volcans. 2 cas d'incendie enregistrés dans la ville de Lubumbashi ce vendredi, dont l'un a causé mort d'homme. Le premier est celui qui s'est déclaré à la station-service PMJ sur le boulevard Katuba et qui a fait plusieurs dégâts matériels. Le second a causé la mort de la députée nationale Sophie Kakujiyumba. Paul Munanga nous fait le point de la situation.
Il est 15h45 heure de Lubumbashi lorsque l'incendie se déclare à la station service PMJ située sur le boulevard Katuba au niveau des 5 payotes dans la commune Kamalondo. C'est dans un quartier résidentiel. D'après des témoins, un camion citerne aurait explosé et les flammes se sont rapidement propagées. Mais l'origine de ces feux n'est pas encore déterminée. La circulation a été perturbée et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Quelques véhicules consumés par les flammes, des commerces voisins à la station service et des installations de la SNEL également touchées par les feux, la station-service PMJ n'est pas épargnée. Elle est complètement calcinée, raconte des témoins. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Signalons que c'est la 2e fois en l'espace d'une année qu'une station-service brûle sur ce même boulevard. Victime d'un autre incendie, la députée nationale Sophie Kakujiyumba, élue de Kabalo dans la province du Tanganyika, est décédée tragiquement ce vendredi à Lubumbashi, dans des circonstances encore non élucidées. Rapporte des sources. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, plus de 10 000 déplacés des sites de Kabongé et Baïti, ainsi que ceux hébergés dans des familles d'accueil à Komanda, veulent regagner leur village. C'est ce qu'ils ont confié à une délégation de la MONUSCO en visite dans la zone vendredi 8 août dernier. Ces déplacés disent vivre dans la précarité, faute d'assistance depuis plus de 2 mois. Originaires des différents coins du territoire d'Iromo, ils demandent à la MONUSCO de plaider leur cause auprès des autorités pour retrouver une vie normale. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Ils sont 10 743 déplacés, venus principalement de la chefferie de Wolese Vonkutu et celle de Banyali Tchabi. Ils ont trouvé refuge à Komanda Centre et dans les localités environnantes. Mais ici, affirmait-il, leur vie est une véritable calvaire. La dernière aide humanitaire remonte au 30 mai 2025. Depuis, ils survivent grâce à la mendicité ou à de petits travaux chez les habitants. L'un d'eux témoigne.
Nous sommes arrivés ici sur le site de Kibongé le 18 janvier 2023 parce que nous sommes dans le
besoins, certains nous font travailler comme si nous étions des marginalisés. Pourtant, nous avions des biens que nous avons dû abandonner. Nos épouses, elles, courent encore plus de dangers lorsqu'elles vont travailler au champ, dans la brousse de Mukasila, Matoumba et ailleurs. Certaines sont victimes de viols. Par pudeur, elles taisent souvent ces violences. Jusqu'à quand allons-nous continuer à vivre ainsi, comme des déplacés privés de tout?
Pour l'instant, impossible pour eux de retourner dans leur village. Ces zones restent sous la menace des rebelles ADF et de plusieurs groupes armés locaux. Les déplacés appellent les autorités militaires à rétablir la sécurité dans cette région en proie à des attaques récurrentes depuis plus de 2 ans. De retour de Komanda, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
À Boma, dans la province du Congo central, la Fédération congolaise des droits humains et développement, FCDHD, alerte sur les conditions de détention à la prison urbaine. Dans une déclaration faite à la presse ce samedi, cette ONG s'est dit préoccupée par la dégradation de l'état de santé de plusieurs détenus. Selon Gabriel Maquies, coordonnateur de la FCDHD, les mauvaises conditions de détention combinées à une prise en charge médicale insuffisante ont plongé de nombreux prisonniers dans une situation critique. Certains seraient amaigris, d'autres cracheraient du sang. L'ONG appelle à une intervention urgente des autorités provinciales et nationales pour améliorer les conditions de vie dans cet établissement pénitentiaire. Gabriel Makessé s'exprime au micro de Nana Plurich Mambo.
Nous sommes profondément préoccupés par la très faible prise en charge sanitaire des détenus de la prison de Boma de la part des gouvernants. Dans une enquête récente par nous menée dans la prison précitée, nous avons enregistré des détenus dont la dégradation de leur état de santé est très avancée. Certains même sont en train de cracher du sang, incapables de se tenir debout et sont devenus de pires moribonds. Face à cette situation qui touche tant les condamnés que le détenu préventif qui, en principe, jouissent encore du droit à la présomption d'innocence, nous appelons les gouverneurs du Congo central et son membre du gouvernement ayant la justice et les droits humains dans ses attributions, ainsi que les maires de la ville de Boma, chacun selon sa part de responsabilité, de se pencher à cette question de manière urgente, car nos compatriotes privés de liberté continuent à garder le statut humain et doivent bénéficier d'un traitement qui préserve leur vie et leur santé physique et mentale telle que garantie par les mécanismes normatifs tant nationaux qu'internationaux.
Contacté par Radio Kapi, le directeur de la prison urbaine de Boma, Christian Loukeloa, rejette catégoriquement ces allégations. Il affirme que les détenus souffrant de tuberculose sont pris en charge et que la prison dispose actuellement de médicaments et de vivres grâce à une subvention gouvernementale reçue en juillet dernier.
Actualité internationale.
Trois syndicats du secteur de la justice au Niger ont été dissous sur un arrêté du ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba. Magistrats, agents de justice, personnels techniques sont concernés. Le gouvernement nigérien dénonce des dérives répétées de ces structures qui, selon lui, nuisent au bon fonctionnement au service public. L'an dernier, les syndicats des magistrats avaient appelé l'exécutif à cesser de s'immiscer dans les judiciaires. Au Tchad, s'est tenu ce samedi 9 août, le 4e et dernier jour du procès de l'affaire de Mandakao à N'Djamena. 25 ans de prison ferme sont requis contre Succé Masra et 65 de ses co-accusés. 9 autres bénéficient du doute et le procureur général demande leur acquittement. Les avocats de l'État, qui s'est constitué partie civile, demandent que les accusés soient condamné solidairement à verser 5 milliards de francs CFA à l'État tchadien. Il demande également la confiscation de tous les biens de l'ancien Premier ministre.
L'invité.
Notre invité s'appelle Nangila Midoenga, conseiller stratégique au sein de l'Association des personnes vivantes avec handicap international. Il milite activement pour une meilleure valorisation et inclusion des personnes en situation de handicap. Selon lui, cette catégorie de la population a pleinement sa place dans le processus de développement national. Il s'entretient avec Jean-Gandou Kabongo.
Nangila Midoenga, bonjour.
Bonjour beaucoup, messieurs les journalistes.
Comment les personnes vivant avec handicap sont encadrées par votre structure?
Les personnes vivant avec un handicap, dans notre structure qui est APVHI, nous les encadrons, nous assurons leur promotion, nous les encourageons pour ceux qui ont des talents qui peuvent servir notre communauté congolaise, de s'en servir de cela pour que la RDC puisse bénéficier de leurs talents. Bien que cela, nous voyons la négligence purement de la société pour les personnes vivant avec handicap. C'est pourquoi nous voulons que les personnes vivant avec handicap puissent être considérées de la même manière que tous les valides.
Donc vous considérez que ces personnes-là sont marginalisées dans la société?
Oui, exactement, ils sont vraiment marginalisés. Parce que si nous devons voir sur les 100% de réglementation sur le plan de la législation du travail, les personnes vivant avec handicap ne se retrouvent pas même à 2% par rapport aux engagements prévus.
D'après vous, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce qu'elles ne veulent pas elles-mêmes s'intégrer dans la société?
Oui, leur intégration n'est pas du tout possible lorsque les personnes valides qui occupent des fonctions de direction ne veulent pas les approcher. Nous voyons partout en République démocratique du Congo, surtout ici en Kinshasa, des structures de personnes vivant avec handicap, à l'occurrence la PVHI, qui s'intéresse beaucoup, qui fait beaucoup de démarches pour que ces derniers se retrouvent. Mais, bien sûr, l'importance n'est pas accordée à toutes ces démarches-là qu'on puisse faire. Il faudra qu'on puisse traiter la structure, la couche des personnes vivant avec handicap de la même manière que les valides. C'est ça ce que nous voulons. Il ne faudra pas que ces personnes de genre handicapées puissent subir de mauvais traitements. Nous voulons que les personnes vivant avec handicap se retrouvent comme les personnes valides. C'est ça notre souci.
Est-ce que ce n'est pas une question de l'auto-victimisation?
Pas du tout. Parce que si vous allez au niveau des campus, si vous allez par exemple à l'ISC ici, à l'ISTA, vous verrez des personnes vivant avec handicap qui se démènent, qui se débrouillent pour faire les études. Mais nulle part, ils ne sont pris en charge par le gouvernement.
Il n'y a pas très longtemps que la ministre déléguée et le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique se sont mis d'accord pour prendre en compte certains désidératants des personnes vivant avec handicap.
Bien sûr, mais cela est sur le plan théorique. Vous pouvez faire un constat à travers la ville de Kinshasa pour ne pas vous envoyer à travers toute la République démocratique du Congo. Mais faites seulement ici constat, ici, dans notre boulevard du 30 juin, à la place royale, quelque part même au niveau de Bayaka, Batetela, même au marché central, vous verrez comment est-ce que les personnes vivant avec handicap sont marginalisées. Donc, ils ne peuvent même pas prendre place à bord de bus public. C'est difficile. Bien qu'il y ait déjà une autorisation de la part du gouvernement pour le service de transport qui avait accordé déjà que les personnes vivant avec handicap puissent monter gratuitement. Dommage, ils ne peuvent pas monter seuls. Il faudra qu'il y ait quelqu'un pour les faire monter, surtout pour ceux qui manquent de tricycles.
Mais nous voyons aussi qu'à Kinshasa, les personnes vivant avec handicap, certaines tout au moins, ça donne de la mendicité et tout. Mais votre association, que fait-elle pour les tirer de cette situation, ne serait-ce que par un encadrement efficient?
C'est ça notre lutte, en quelque sorte, à l'interne de nos différentes structures. Nous leur disons ceci. Il ne faudra pas rester là sur des rues en train de commander. Servons-nous de nos compétences, de nos talents pour faire un apport consistant au niveau de la société. Enfin, notre vie en tant que personne vivant avec handicap puisse changer. Pour y arriver à toutes ces choses, il nous faut un appui gouvernemental.
Midoenga, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Notre invité, Nangila Midoenga, conseiller stratégique au sein de l'Association des personnes vivantes avec handicap international, il nous a rappelé l'importance de l'inclusion et de la valorisation des personnes en situation de handicap dans le développement du pays. Ils sont entretenus avec Jean Ganduka Bongo. Ainsi se termine cette grande édition du journal parlé Vespéral, coordonnée et supervisée par Jude Mystère Bilanda Nkumar, mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonswalo. L'actualité continue sur Radio Kapi et sur nos plateformes numériques. Vous pouvez réécouter ce journal dans notre site internet www. www.radiocapi.net. Merci et bon week-end à tous.